Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
Les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxième et quatrième dimanche du mois. Sur Radio Grenouille 888.
C'est le philosophe français Paul Ricoeur qui a forgé le concept d'identité narrative. Ce concept, en fait, évoque l'idée que le sujet se saisit lui-même à travers un certain nombre de récits, d'où le terme d'identité narrative, de récits qu'il fait de sa propre vie. Donc, en fait, Ricoeur distingue ce qui relève de l'identité conçue comme une essence stable, identique à elle-même, et de l'identité conçue comme plutôt comme un entrelac, comme un tissu de récits plus ou moins cohérents. Je me permets de citer Paul Ricoeur lui-même, ça sera sans doute plus clair, dans une citation un petit peu longue, mais nécessaire, je pense, pour mieux saisir le sens de ce qu'on dira après. Donc je cite. « Sans le secours de la narration, le problème de l'identité personnelle est en effet voué à une antinomie sans solution. Ou bien l'on pose un sujet identique à lui-même dans la diversité de ses états, ou bien l'on tient, à la suite de Hume et de Nietzsche, que ce sujet identique n'est qu'une illusion substantialiste. Le dilemme disparaît si, à l'identité comprise au sens d'un même, idem, on substitue l'identité comprise au sens d'un soi-même, ipsé. La différence entre idem et ipsé n'est autre que la différence entre une identité substantielle ou formelle et l'identité narrative. À la différence de l'identité abstraite du même, l'identité narrative, constitutive de l'ipséité, peut inclure le changement, la mutabilité, dans la cohésion d'une vie. Comme l'analyse littéraire de l'autobiographie le vérifie, l'histoire d'une vie ne cesse d'être refigurée par toutes les histoires véridiques ou fictives qu'un sujet se raconte sur lui-même. Cette refiguration fait de la vie elle-même un tissu d'histoires racontées. L'identité narrative n'est pas une identité stable et sans faille. De même qu'il est possible de composer plusieurs intrigues au sujet des mêmes incidents, de même il est toujours possible de tramer sur sa propre vie des intrigues différentes, voire opposées. En ce sens, l'identité narrative ne cesse de se faire et de se défaire. Fin de citation. Alors, la lecture de ce texte évoque irrésistiblement un film d'Arthur Penn de 1970, Little Big Man.
Je ne pouvais plus retourner chez les Indiens, alors je suis retourné chez les Blancs. Et là, j'ai vu.
Little Big Man, c'est un film déjà qui est construit autour d'un procédé énonciatif, puisque c'est un vieillard, Jack Robb, qui raconte sa propre vie. Donc on est vraiment dans la narration ici et dans l'identité narrative. Et cette narration, elle va proposer une variation sur le caractère insaisissable du moi et sur le caractère indiscernable du vrai et du faux. Deleuze, dans Cinéma 2, l'image temps, à la page 173, définit le faussaire comme étant devenu le personnage central du cinéma. Et ici, Arthur Penn s'amuse à jouer sur ce thème de la métamorphose, sur le thème du caractère réversible de toute identité. Jack Robb est à la fois un blanc et un indien et un blanc, et quand il est un blanc, il peut être tour à tour un commerçant, ou un trappeur, ou un soldat, ou un clochard, ou un tireur d'élite, etc. Et il y a cette idée d'une insatisfaction perpétuelle, chaque forme en remplaçant une autre, dans une sorte comme ça de danse sans fin. Et d'ailleurs, à un moment, Custer lui dit « Vous êtes un renégat, mais pas un brave Cheyenne. » Et Jack Robb se dit à lui-même « Custer avait raison. J'étais un échec complet comme indien. » Et il y a un moment d'ailleurs, vers le même passage du film, où il tente de se suicider pour échapper en même temps justement à cette difficulté à être soi-même et à un monde qui est complètement incompréhensible. Mais les deux sont profondément liés, justement. Et le monde est d'autant plus incompréhensible que le sujet a du mal à saisir son identité. Et le sujet a d'autant plus de mal à saisir son identité que le monde est incompréhensible. Et il y a même un moment d'ailleurs où Jack Robb traverse une bataille et se demande si à travers ses différentes métamorphoses, il n'est pas devenu carrément invisible.
Où allez-vous, soldat ?
Message pour le général.
Attendez un instant. Qu'est-ce que vous avez sur le visage ?
De la boue, c'est rien. C'est...
Ce n'est pas de la boue, c'est de la peinture de peau rouge.
Oh.
Et ça, c'est un couteau indien. Quelle est votre compagnie ?
Ma compagnie ?
Oui, quel est le nom de votre commandant de compagnie ?
Qu'est-ce qu'il y a, capitaine ?
Je crois que j'ai pincé un renégat, mon général. Il a de la peinture d'indien sur le visage, il ne connaît ni le numéro ni le commandant de sa compagnie.
Eh bien, vous n'avez qu'à le prendre.
Mon général ! Mon général, vous vous rappelez pas de moi ? Jacques Crabb, j'étais muletier.
Muletier ?
Eh oui, mon général. J'avais demandé qu'on me prenne comme éclaireur, mais j'avais deviné mon vrai métier, tout simplement en regardant ma tête.
Oui, il me semble souvenir de cela.
En évoquant sa difficulté à être un, à être soi, je suis tenté une fois de plus d'évoquer Dead Man de Jim Jarmusch, puisque Dead Man c'est aussi une variation fascinante sur la dissolution d'un sujet. Si on entend par sujet une identité stable, si on entend par sujet un être clairement séparé du monde, un être clairement conscient de lui-même, c'est ce qu'on appelle en philosophie la conception classique du sujet, ou encore la conception cartésienne, parce que c'est René Descartes qui l'a sans doute défini de la manière la plus rigoureuse, ou du moins qui l'a défini en premier. Alors, dans le trouble de l'idée de sujet par rapport à Dead Man, on peut citer Nobody, qui est métis, moitié blanc, moitié indien, donc déjà inclassable, qui surgit de nulle part dans le film. D'ailleurs, la première image qu'on voit de lui est complètement floue, puisqu'on le voit en caméra subjective à travers le regard de William Blake, et puis qui assure aussi la fonction de passage d'un monde à l'autre, hein, du réel à l'imaginaire, du passé au présent, du présent au passé, de la vie à la mort, à travers l'expérience notamment du payolt, et puis à travers donc cette expérience du caractère instable du réel. Mais bien sûr, le personnage qui est le plus concerné par ce trouble de la subjectivité, c'est William Blake lui-même, le personnage interprété par Johnny Depp. Et Jim Jarmusch dit d'ailleurs, je cite, « Johnny Depp est une page blanche sur laquelle tout le monde veut écrire quelque chose ». Fin de citation. Et de fait, dans Dead Man, on peut dire que Johnny Depp joue à la fois un comptable naïf qui meurt lentement, et puis un poète revenu des morts qui devient un indien tueur de blancs. Et la limite entre les deux n'est pas très nette, de même que la limite entre le personnage et le monde n'est pas très nette. Hein. Le film de Jarmusch est basé notamment sur cette idée de non-séparation, sur cette idée de fusion du sujet dans le monde lui-même. Et là aussi, une fois encore, on pourrait se référer à la phénoménologie telle que Merleau-Ponty notamment l'a développée. Et à cet égard, d'ailleurs, une des techniques centrales du film, c'est le fondu. Le fondu au noir qui joue sur la perte de conscience. Hein. En général, les fondus au noir arrivent dans le film au moment où William Blake perd conscience. Et puis les fondus enchaînés aussi, qui sont bien symptomatiques de ce refus de la séparation nette. Hein. Le montage cut, c'est un montage qui sépare les images, alors que le fondu enchaîné, c'est un montage qui mélange les images et on ne sait pas trop bien où une image finit et où l'autre commence. Nobody. Ce qui est intéressant de voir finalement, si on prend une perspective un peu plus large, un peu plus historique, c'est de voir que ce thème de la difficulté à être soi-même n'est pas seulement propre au western ou au cinéma moderne tel que Deleuze peut les définir, mais apparaît déjà dans des westerns dits classiques, dans des westerns notamment des années 50-60 et notamment dans un des chefs-d'œuvre de John Ford de 1956, « La prisonnière du désert », film dont je parlerai dans la prochaine chronique westernosophique.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui passent par la porte et ceux qui passent par la fenêtre.
les chroniques westernosophiques du professeur Rosmini. Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois. Sur Radio Grenouille 888. Et sur www.radiogrenouille.com.